membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer ben, Gosport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas,
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Et bonsoir, vous êtes bien à l'écoute du Canu Info du vendredi, puisqu'on est vendredi 4 septembre 2015, selon le calendrier grégorien.
Bien sûr, alors là, c'est la rentrée pour nous, donc on va devoir petit à petit se réhabituer un petit peu à parler. En plus, on a eu beaucoup de problèmes aujourd'hui, parce qu'on avait oublié les bruits, les clés plutôt du studio, donc on était dehors pour préparer nos infos, alors on devait éplucher comme ça tous les médias alternatifs et pas alternatifs de France et de Navarre. En plus, il y avait des informations telles que quand même dans le Progrès, un mouton en Australie qui a battu les records de laine, il a le plus de laine possible et il y a des associations de défense des animaux qui ont dû se rassembler pour pouvoir le sauver parce qu'il allait mourir et tellement il avait de la laine.
Ouais, c'est génial. Et vous comprenez qu'on a eu du mal à se concentrer avec toutes ces infos qui nous sont tombées dessus à la terrasse d'un bar. Et je vois sur la platine, il me semble qu'il n'y a pas assez de volume pour le micro. Il n'y a que de petits points verts, donc peut-être que vous n'avez pas entendu toutes les bêtises qu'on raconte. Et maintenant que le volume est assez monté, on va vous raconter de quoi on va parler. Et ben, on va bêtement commencer par le local avec un petit reportage pas bête du tout sur la Confédération Paysanne qui allait occuper la DRAF.
Et puis on aura un autre reportage toujours dans le local sur le rassemblement qu'il y a eu devant le tribunal administratif pour soutenir une personne sans papier.
Et vu que nos super reporters qui ont réalisé ce reportage sont allés jusqu'à parler aux gens, qu'est-ce qu'ils ont glané? Un journal du collectif des étudiants et étudiantes étrangers et étrangères de Lyon sans papier et solidaire. Et bah, ils vous le présenteront.
Et puis on va ensuite passer dans le national où on va parler du championnat du monde d'aviron. Alors pas dans la manière dans laquelle vous croyez, mais ce sera une voilà. On parlera plus de ce que ça a changé dans le paysage local d'Aiguebelette.
Et oui, pour ensuite passer à l'EPR de Flamanville, qui est une autre forme d'énergie renouvelable après le rameur, le nucléaire.
Et ensuite, on verra que les retraites vont nous coûter de moins en moins cher. C'est formidable, mais pourquoi?
C'est peut-être à cause des gens de Tarnac dont on vous parlera après, mais on n'est vraiment pas sûr qu'il y ait un lien.
Et peut-être qu'on pourra parler également de réforme à la SNCF, mais si on a le temps seulement.
Alors là, on pourrait penser qu'il y a un lien, mais ce serait de mauvais goût. Alors du coup, on va passer à l'international et on vous parlera, bien sûr, vous attendez tous ce grand moment, la rubrique tant attendue de la rentrée, le Guatemala.
Puis on ira à Londres où on parlera des logements sociaux.
Pour finir, bien sûr, avec la Hongrie, où il y a quand même des gens d'extrême droite, donc c'est bien de relayer leurs paroles.
Très amusant. Et voilà, on finira par l'agenda. Voilà, donc on va commencer par lancer le premier reportage. Vous êtes prêts? Vous êtes feu?
Bah, en fait, peut-être je peux présenter le reportage avant qu'est-ce qu'on dit, oui. Parce que c'est vrai que si on envoie le reportage comme ça, alors qu'on sait même pas de quoi on va parler, ça va être embêtant. Parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé mardi 1er septembre? Eh ben, il y a les paysans et les paysannes de la Confédération Paysanne du Rhône qui ont envahi les locaux de la DRAF. Alors la DRAF, c'est quoi? C'est la direction, je crois, régionale de l'agriculture, et le A et le F de la fin, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que ça doit être la France ou les affaires, enfin, il doit y avoir des choses comme ça. Ils sont quand même restés, ils sont arrivés vers 13h, ils étaient 70, il y avait 2 vaches et 3 brebis avec eux. Et ils sont restés jusqu'à 21h. Mais non, mais pourquoi ils ont amené des vaches et des brebis? Parce que c'est les productions qui sont les plus en difficulté. Et c'était un petit peu pour illustrer ces productions en difficulté. Et alors eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils exigeaient la venue de le ministre de l'Agriculture, qui s'appelle Stéphane Le Foll. Et alors leur but, eux, parce qu'en même temps, il y avait à Paris, en même temps, un rassemblement de la FNSEA, qui ont fait venir quasiment 1500 tracteurs, 5000 personnes, en plein Paris. Ça a créé des bouchons dans tout Paris. Et alors, eux, ils étaient plus pour demander des aides, pour demander, en fait, de l'argent, bêtement, alors que la Confédération Paysanne, eux, ils disent que le problème, c'est pas de l'argent, mais c'est au contraire, en fait, de changer la politique agricole générale. Parce que depuis les années 90, c'est la politique agricole européenne est menée par l'OMC et puis par l'Union européenne. Et donc c'est vraiment ils ont mis à bas les protections douanières. Il y a vraiment une libéralisation du marché. Et du coup, ça a mis en concurrence tous les producteurs agricoles, notamment par exemple des grandes fermes de 500 hectares qui, elles, sont vachement plus aptes à capter des subventions, qui ont beaucoup plus de liens avec les supermarchés, en fait, qui vont du coup être beaucoup plus rentables économiquement. Et donc ça, en concurrence avec le petit producteur peu mécanisé, qui lui, pour le coup, va beaucoup plus galérer à obtenir des subventions. Et du coup, l'objectif de la Confédération Paysanne, eux, ce qu'ils demandent, c'est pas plus d'aide financière, mais plutôt un changement de la politique agricole, de passer d'une politique agricole d'exportation à plutôt une politique agricole paysanne, plus, simple but de nourrir les gens. Et donc ils voulaient plus créer en part d'occupation, ils voulaient créer un espace de débat public, ils voulaient que ce soit obliger en tout cas l'Union européenne et l'État à sortir de ce mode agricole où vraiment c'est des grandes entreprises où l'exploitation agricole est pensée comme une filière industrielle, comme une entreprise comme les autres. Et en même moment, dans toute la France, il y avait aussi tout un tas plutôt ils ont déployé des banderoles, ils ont rencontré la DRAF à d'autres endroits. Mais ça n'a pas donné finalement grand-chose. Le ministre, lui, a répondu, il a proposé un rendez-vous à Paris, mais la Confédération voulait qu'il vienne à Lyon justement pour discuter, parce qu'à Paris, en même temps, il était occupé avec la FNSEA. Mais du coup, alors que les gens de la Confédération Paysanne se sont fait sortir Manu Militari aux alentours de 21h, au même moment, la FNSEA, elle, a obtenu quasiment 3 milliards d'euros et même des allègements de charges, un petit peu une pause sur les normes, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire que les cotisations sociales vont être un petit peu allégées, mais donc du coup ça profite que aux grandes entreprises de l'agricole, l'agriculture, ça profite pas du tout aux petits producteurs. Et donc on a un petit peu, voilà, ce qui dénonce la Confédération Paysanne, c'est du coup un deux poids deux mesures, en fait. D'un côté on va offrir des cadeaux aux grandes entreprises agricoles qui, elles, vont, ça sert pas ni aux agriculteurs, parce que eux, du coup, ils peuvent pas gagner plus d'argent à cause, comme c'est des petites entreprises, et que les cadeaux sont intéressants que pour les grandes entreprises. Et puis en général, pour le pouvoir d'achat des gens, ça permet pas de baisser les prix. Et du coup, la Confédération Paysanne continue à décrier ce système. Et alors ils donnent un peu des chiffres, ils nous disent que par exemple on avait 2,3 millions d'exploitations agricoles en 1955, et aujourd'hui on est passé à 500 000, c'est-à-dire que ça a été divisé par 5. Donc ils donnent un truc un peu rigolo, c'est que chaque semaine il y a 200 exploitations qui disparaissent et qui viennent agrandir les plus grosses exploitations. Donc je vous propose peut-être d'écouter un petit peu eux-mêmes ce qu'ils ont à dire. J'ai fait que récupérer des reportages qu'ils ont fait eux-mêmes, et j'ai rajouté juste une super musique de Bluegrass parce que je trouvais que ça manquait d'illustration musicale.
Oh. Alors l'autre jour, on vous a rencontré, on a vu qu'on n'était pas d'accord avec vous, vous nous avez présenté le plan du ministre. Bon, il est gentil son plan, mais il ne règle aucun problème, il va régler quelques problèmes auprès des gens les plus en difficulté. Il faut les aider, les gens les plus en difficulté, il y a nécessité de ça. Mais ce qu'on attend, nous, c'est des changements fondamentaux de politique. Et on en a parlé quelques fois, jusqu'à présent, on n'est pas entendu. Donc on est là, en attendant que le ministre descende nous voir. Nous, on est venu ici, en attendant que vous invitiez le ministre à venir nous rencontrer, on restera ici jusqu'à ce que le ministre descende.
Donc on est là, on s'installe, jusqu'à ce que M. Le Foll vienne nous rencontrer.
On est viré, on a le droit de faire ce qu'on veut, c'est tout. Et que certaines paroles ont le droit d'être écoutées, d'autres n'ont pas le droit d'être entendues, et ben c'est la réalité. Et on sait très bien. Ils ont rencontré, si on est là, on sait qu'ils ont rencontré Hollande. Et on voit bien Hollande nous enfermer dans une vision de circuit court et tout. Mais non, on se bat pour les circuits longs, on se bat d'abord pour ça. Donc.
On était venu pour rester un certain nombre de jours. On était venu ici pour rester un certain nombre de jours.
On revient demain.
Le constat est très très amer, non pas par la bataille qu'on a menée, parce que je pense qu'on a été dit qu'on n'a rien cassé, c'est pas l'objectif de casser, mais c'est bien de faire passer des messages auprès des ministres. On est très très amer parce que certains ont pris le soin de mettre de la merde de partout en France, ont pris le soin de casser des choses, et ceux-là, le ministre est venu les voir. Nous, on a pris le temps de respecter les gens, d'aller voir si c'est administratif, donc qui nous appartient, puisque l'administration, ça appartient quand même à l'ensemble des citoyens. Et au bout de quelques heures, on a envoyé les forces de l'ordre. Ça veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures en France. Ceux qui sont très forts en gueule et qui ont beaucoup de tracteurs à mettre sur les routes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et on les écoute. Et notre inquiétude, c'est que le 3 septembre, les annonces du ministre soient très mauvaises, les annonces du président de la République soient très mauvaises et qu'elles répondent plutôt à la demande de 3 milliards. Nous, on ne demandait pas un centime, on demandait simplement du courage politique. La conclusion, c'est que le ministre peut faire distribuer un petit peu des sous plutôt que d'avoir du courage politique. Et ça, c'est une honte à lui. Donc, le combat, il n'est pas fini. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de la manif de Bruxelles. Il y a d'autres manifs qui vont se dessiner. La bataille continue. On va continuer à se battre parce que ce qu'on porte, le fait de changer ces lois libérales qui sont en train de nous laminer, de laminer tous les paysans, de laminer globalement tous les citoyens. Les 5 millions de chômeurs, ils sont pas arrivés comme ça. Les paysans qui diminuent de 20 ou 30% tous les 10 ans, ça arrive pas par hasard. Ça veut dire que c'est des choix politiques, c'est des choix de libéralisme, c'est des choix dont on en a parlé plusieurs fois dans la journée. C'est cette PAC qui est absolument scandaleuse, qui mine un ministre d'agriculture qui négocie des choses bien à Bruxelles et qui met de la merde en place en France, c'est absolument scandaleux. Ça veut dire que cette bataille-là, on va la continuer. La bataille du tunnel de prix, telle que la CONF l'a réfléchi, on va se battre. Le fait qu'on produise du porc de qualité et qu'on vende du porc en France plutôt que d'essayer d'exporter en carcasse à l'international, on va se battre. Qu'on fasse des génies salaires plutôt que de faire des torillons qu'on essaye d'exporter au Liban ou je ne sais trop où, on va se battre. La France a besoin d'alimentation, on est capable de produire de l'alimentation de qualité et la Confédération paysanne avec l'agriculture paysanne porte ce message haut et fort. Donc on va continuer à mener le combat de partout, et sur le plan syndical et sur le plan des pratiques agricoles. Ouais.
Super, donc après ce reportage bien campagnard, on revient en ville où on était du coup hier jeudi matin devant le tribunal administratif de Lyon, où Pierre, qui est un étudiant d'origine camerounaise, qui contestait son obligation de quitter le territoire français, puisqu'en fait il est étudiant depuis quelques années, et au moment de renouveler son visa, la préfecture a dit que c'était plus possible pour lui de renouveler le visa, et au suite d'un petit parcours, il a eu donc une obligation de quitter le territoire français, qu'il contestait hier devant le tribunal, et on peut écouter directement du coup ce qu'il avait à dire par rapport à ça.
Alors on est au tribunal administratif de Lyon.
Ouais.
Ouais. Alors on est au tribunal administratif de Lyon.
Ouais.
Ouais. Donc c'est un bureau qui gère des recours en fait au QTF pour le camp, en fait pour mon camp en fait. Et on est à la sortie de l'audience, de mon audience. Donc, voilà. Okay. Donc l'audience qui portait sur l'annulation, justement la décision du préfet, qui était une autorisation de quitter le territoire français. Pourquoi ? Parce que je suis étudiant. Je suis arrivé en France en 2012 et j'ai fait mes études de télécom, spécialement statut des réseaux. Et après mon master 2, justement, j'ai fait une réorientation pour faire une année d'anglais pour donner du poids en fait à mon diplôme, vu que je n'étais pas balèze en anglais en fait. Ouais. Et là, j'ai fait une demande de renouvellement de séjour qui a été refusée. Donc, et aujourd'hui, on est en train de contester cette OQTF qui date depuis le 20 janvier.
Ouais.
Et là, il y a eu l'audience et puis on attend dans un mois ce qui se dira, quoi. D'accord. Donc c'est un peu ça.
Tu sais s'il y a... Enfin, quelles sont les chances, a priori, de succès de la demande ou
Bon, les chances, je sais pas trop, mais je vais dire en fait que le dossier... Il est complet, il y a des preuves et généralement on n'est pas en fait généralement les juges en fait n'interpellent pas le concerné pour lui poser des questions, mais là j'ai eu une question qui m'a été posée, donc c'est plutôt positif ça, et puis on verra dans trois semaines au moins ce que ça va donner, et puis sinon de toute façon avec le collectif des étudiants à Lyon, des étudiants sans papier à Lyon, on aura la réponse et puis on pourra discuter si c'est oui ou c'est non et voir comment est-ce que on pourra continuer d'avancer ensemble, quoi.
Ok. Ouais. Et du coup, ce collectif, tu peux le présenter brièvement ? C'est un collectif qui est récent, je crois ?
Alors, il n'est pas récent, mais ses activités ont été arrêtées pendant un petit bout. Et là, ça fait 2 mois. On a repris les activités parce qu'il y a plusieurs étudiants en fait qui n'ont pas de papier et qui ne savent pas trop où s'orienter en fait, vers qui s'adresser. Et là, c'est vrai qu'il y a des collectifs qui de temps en temps sont pas réactifs parce que quand on leur envoie des mails, soit ils ne répondent pas et tout. Mais nous, on a essayé de rassembler les différentes requêtes, de les étudier et puis de se dire mais pourquoi pas relancer les activités étant donné qu'il y en a qui veulent bien adhérer et qui veulent bien. Qui ont des problèmes en fait, parce que c'est ça, parce que s'il n'y a pas de gens qui se plaignent, on se dira que tout va bien et puis il n'y aura pas de rassemblement, il n'y aura pas de réunion d'information de ce genre, donc voilà.
D'accord. Et du coup le plus simple pour contacter le collectif, c'est directement par mail?
Oui, c'est directement par mail, alors oui c'est ça, collectif.étudiant.étranger.lyon@risup.net. Alors, RISUP, c'est quoi? C'est RISEUP.net. Donc, voilà, c'est par mail. Tous les premiers contacts sont par mail. Et après, soit on vous répondra et on vous enverra un numéro de téléphone. Et puis, on pourra prendre soit un rendez-vous ou alors vous inviter pour une séance, lors d'une séance d'information, comme on le fait bien, je crois, une fois par mois. Une fois par mois, ouais.
Voilà. Et ça, du coup, ce collectif, il regroupe les étudiants sans papier, mais c'est que les étudiants sans papier qui sont représentés par ce collectif ou il peut y avoir aussi des cas de gens qui ne sont pas des étudiants, qui ont des problèmes de papier également?
Ouais, justement, en fait, j'ai un peu insisté sur les étudiants sans papier parce que justement, je suis étudiant, mais en fait, non, il regroupe tous ceux-là qui n'ont pas de. Tous ceux qui n'ont pas de papier, mais spécialement ceux qui ont des projets peut-être de faire des études. Ouais. C'est qu'ils sont en recherche d'une inscription ou un truc comme ça, donc voilà, il accueille tout le monde, le collectif en fait il est ouvert à tout le monde, mais on essaye en fait de se focaliser beaucoup plus sur ceux-là qui voudraient réintégrer, reprendre leurs études, ou alors ceux qui sont en train qui ont déjà un programme d'études mais qui ne sont pas en séjour régulier en fait. D'accord. Donc c'est un peu ça.
Merci. Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter?
Ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'il faut chercher à s'informer et puis il ne faudrait pas rester dans son coin quand on est face à ce genre de situation. C'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'aller vers des associations, c'est de discuter. C'est là où on pourra mieux voir, on pourra voir clair et puis trouver des solutions. Parce que des solutions, il y en a toujours. Il y en a toujours, mais il suffit d'être au bon endroit et puis de faire les bonnes choses, en fait. Donc voilà.
Bah merci à toi.
Ah, c'est moi. Je suis Pascal Parfondry.
Voilà, donc ça c'était hier au rassemblement devant le TA pour en soutien à Pierre. Et au même rassemblement, on a rencontré Pascal, qui fait partie d'un autre collectif, le collectif Jeunes Mineurs Isolés de Lyon, et qui nous a parlé un petit peu de la situation de trois jeunes majeurs, parce qu'en fait, en France, les mineurs sont les mineurs isolés d'origine étrangère sont pris en charge par l'État. Mais quand ils sortent du dispositif, il peut arriver qu'ils soient du coup directement l'objet d'OQTF et du coup renvoyés dans leur pays. Et là, actuellement, il y a trois jeunes majeurs qui sont au centre de rétention administrative de Lyon. Ces trois jeunes, c'est Ali qui vient de Côte d'Ivoire, Ben qui vient du Cameroun et César qui vient d'Angola. Et du coup, là, ça fait un mois qu'ils sont enfermés là-bas, à Saint-Exupéry. Et du coup, Pascal nous a parlé rapidement de leur situation.
C'est parti. Ouais. Donc, j'ai 17 ans maintenant. Et je fais partie de l'association RSF. En fait, il y a un certain moment, j'ai été envoyé à la rue. J'ai été reconnu à la Méomi en tant que mineur et puis à un moment on m'a renvoyé à la rue. Donc ouais. Je dormais dehors, j'avais pas des ressources pour vivre donc ouais. Et je suis allé à la RSF, là c'est une association qu'on aide de jeunes mineurs isolés et les jeunes majeurs quoi. Et quand je suis allé, c'est eux qui m'ont aidé à payer les transports. Donc du coup, j'étais toujours dehors et on a fait appel à une avocate et c'est la dame qui m'avait aidé, on a vu le juge et là maintenant les dossiers ont été bien notés et j'étais reconnu.
D'accord. Donc, ouais. Ok. Parce que en fait, c'est pourquoi t'as été hébergé parce que t'étais reconnu comme mineur.
Ouais, ouais.
J'ai fait 7 mois à l'hôtel. Du jour au lendemain, ils se sont dit finalement non, il est pas mineur.
Il y a pas eu de raison. On m'a envoyé le refus d'OPP, du coup il n'y avait pas de raison pour laquelle ils ont envoyé parce qu'on a dû demander.
Ouais.
Même mon assistant social a dû demander pour savoir la raison pour laquelle ils m'ont mis à la porte. Ils ont refusé de me prendre en charge.
Okay.
Et ils n'ont pas donné la raison pour laquelle il n'y avait pas de raison.
D'accord.
Ouais. Donc, et aussi, ils n'avaient rien à faire tant que le conseil général avait déjà envoyé le refus d'OPP. Ils étaient obligés de me mettre à la porte.
Ok.
Donc, ouais.
Et toi, du coup, c'est quoi que tu as dû fournir pour prouver que tu étais bien mineur?
Mais j'avais tous mes papiers en ordre. Mon attestation, les originaux, tout, tout, tout. Okay. Et c'est ce que j'ai dû montrer au juge. Donc,
Du coup, toi, ils t'ont pas fait suivre de test osseux, par exemple?
Non. Non. En fait, j'avais tous mes papiers en ordre. Et le jour où je suis allé voir le juge, on a montré tous les papiers et toutes les preuves que j'en avais. Donc, le juge a dit que ça sert à rien parce qu'il a tous ses papiers en ordre.
Ok. Ouais. Et du coup, toi, maintenant, ta situation, elle est réglée? Ou bien est-ce que quand tu vas avoir la majorité, il va de nouveau y avoir des problèmes pour toi potentiellement ou...
Ben là pour le moment je sais pas, mais actuellement c'est ce qui se passe. Tu peux être reconnu et puis dans la majorité ça pourrait encore poser d'autres problèmes.
Ouais.
De toutes les façons ils créent toujours des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes. Tu vas voir, ils vont demander d'autres papiers ou ils vont te compliquer dans telle chose. Mais par contre je sais pas. Okay. Ce qui va m'arriver le lendemain, je ne sais pas encore.
Ça marche. Et du coup, toi, tu milites au sein du collectif Jeunes Majeurs en plus. C'est un autre collectif par rapport à RSF?
Non, non, non. Non, non, c'est le RSF qui s'occupe de tout. Des jeunes mineurs isolés, des jeunes majeurs isolés.
Ok. Ouais. Et du coup, le collectif Jeunes Mineurs Isolés, en fait, c'est quoi ces actions exactement
Donc, et ils aident les jeunes mineurs isolés qui ont réussi, disons, le refus d'OPP à les aider à trouver un avocat pour poursuivre leur procédure.
D'accord.
Pour avoir leurs droits, quoi.
Ouais, ouais. Ok. D'accord. Et là aujourd'hui, c'est pour ça que tu es ici devant le TA, c'est par l'intermédiaire de RSF que tu as eu l'info, tout ça?
Ouais, c'est l'RSF qui m'a mis au courant que non, il y avait un jeune étudiant qui devait passer l'audience aujourd'hui.
Ouais.
Donc c'est ce qu'on fait, on y participe toujours quand il y a quelque chose.
Okay.
Pour les gens qui n'ont pas de papier, s'ils veulent passer à la justice, on est toujours là pour les soutenir.
D'accord. Ouais. Et tu sais si c'est un collectif qui est vieux sur Lyon?
La RSF? Par contre, je peux dire oui, parce qu'ils ont des boîtes presque partout ici en France. Ouais.
Et le collectif Jeunes Mineurs, par contre, c'est plus jeune?
Ouais, et ils font tout ensemble.
D'accord.
C'est eux qui s'occupent de tout.
Ok.
Ouais.
Et du coup, j'entendais parler de la situation de trois jeunes là, qui sont en ce moment au centre de rétention administrative.
Oui.
Et t'en sais un peu plus sur leur situation en ce moment?
Ouais, pour la situation des trois jeunes, normalement, l'autre doit être expulsé.
Ouais.
Il doit retourner au pays, c'est ce qu'on veut lutter pour ça, parce qu'on ne voit pas la raison pour laquelle on veut lui renvoyer chez lui au pays. Donc, c'est un peu ça.
D'accord. Ouais. Ouais. Et les deux autres
Les deux autres, ils sont toujours là, ils doivent passer normalement chez les juges.
D'accord. Ouais. Okay. Et celui qui doit être envoyé dimanche?
Les dimanches, oui.
Et il y a quelque chose qui va être fait pour essayer de tenter d'empêcher l'expulsion ou c'est plus trop
possible? Normalement, on a parlé de ça hier, on doit normalement faire quelque chose pour Dijon en manifestation le 9.
Ok, ouais. Le 9 septembre.
Le 9 septembre, d'accord. Parce qu'il y avait les vacances, on vient à peine de retourner.
Ouais.
Donc c'était hier qu'on a eu une réunion entre nous, les jeunes majeurs et les mineurs isolés, okay, pour en parler de ça.
Okay. Ouais. Et ça, ce sera directement au centre de rétention administrative ou
Ça, par contre, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas encore plus d'infos à propos, okay, de ça.
D'accord. C'est bon, bah nickel. Tu as quelque chose à ajouter particulier?
Non, c'est bon, ça est juste qu'on nous laisse un peu tranquille, quoi. On vient ici, on a nos papiers en ordre. Dès qu'ils vérifient nos papiers, c'est déjà bon. Ça sert à rien de faire des tests OC parce que ça complique les choses. Il y a pas des choses sérieuses là-dedans, quoi. On n'est pas des esclaves, quand même. À vrai dire, c'est ça. Ouais.
Travailler plus, gagner plus, j'aurai moins de temps. Le temps, c'est de l'argent. J'aurai moins d'argent. J'aime pas.
Désolé pour la fin. Donc le rassemblement dont il parlait, c'est finalement il est fixé au mercredi 9 septembre à 17h devant la préfecture. En fait, du coup derrière la préfecture, rue du Noir. Voilà, du coup ce sera en soutien à César, Ali et Ben qui sont au centre de rétention administrative. Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, désolé pour les petits trucs comme ça, mais c'est un peu des bandes annonces de ce qui va se passer après. C'est la deuxième que je fabrique, voilà. C'est le nouveau style du Canu Info.
Mais ce super collectif des étudiants et des étudiantes étrangères de Lyon, ils ont fait un super journal qui devrait apparaître tous les mois, si je me souviens bien. Donc je peux vous parler du numéro 1 déjà, parce qu'il n'y a que le numéro 1 qui est sorti en septembre 2015, donc c'est tout frais, c'est tout neuf. Donc dans ce journal, on parle de la réforme du droit d'asile, on parle du coup de comment le nouveau droit d'asile va être... beaucoup plus accéléré. Et puis alors surtout, il parle d'un truc, moi je vais en parler plus précisément parce que je trouvais que c'était peut-être intéressant, c'était la création de centres d'hébergement directif. En fait, comme ils se retrouvent avec plein de demandeurs d'asile, plein de demandeurs de papiers, et ben ils décident de affecter le demandeur d'asile en fait dans une autre région que celle où il se présente. En fait, l'idée c'est de désengorger les administrations, empêcher qu'il y ait du coup une concentration de demandeurs d'asile au même endroit. Et du coup, ça permet de cacher un petit peu de répartir, et du coup on se rend moins compte de la réalité de la situation. Donc entre autres, vous trouverez ça du coup dans ce petit journal. Il y a aussi du coup il parle du rassemblement en solidarité avec Pierre, et alors il parle aussi de quelque chose qui s'appelle le Students, alors désolé pour l'accent, bon, le Students Welcome Desk. C'est du 7 au 30 octobre à Lyon. À Lyon 2, dans les locaux de l'université, il y aura du coup tout un tas de stands pour aider les étudiants étrangers dans leur vie à Lyon, avec des brochures, de l'information, mais aussi des ordinateurs en accès libre pour effectuer les recherches, les démarches administratives. Et du coup, si vous êtes étudiant, vous pouvez vous rendre au Student Welcome Desk pour obtenir de l'aide. Et voilà pour ce super petit journal. On attend avec impatience le numéro 2.
Et voilà, sans transition aucune, du coup, moi je m'en vais vous parler du lac d'Aiguebelette. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment d'Aiguebelette? Les passionnés de sport ne vous le diront pas, puisque personne ne s'y intéresse vraiment, mais il y a bien sûr les championnats du monde d'aviron. Et pourquoi est-ce qu'on vous en parle ce soir? Est-ce que c'est pour crier hurrah pour les médailles françaises glanées à ces magnifiques championnats du monde? Non, parce qu'en fait on n'a pas regardé les résultats, mais ce qui nous intéressait, c'est ce qui se passait derrière le spectacle sportif et médiatique. Qu'est-ce qui se passe? Donc médiatique quand même loupé, hein, parce que c'est un gros flop, très peu de gens en parlent. Qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, il y a un grand projet inutile et ça fait un bout de temps que ça traîne, à l'instar du stade de Lyon dans la rubrique sport, ou du Roi Bon dans notre rubrique, mais de moindre ampleur quand même que le stade de Lyon, moins médiatisé et moins connu dans les milieux militants. Donc on a eu ces infos par des collectifs d'habitants d'Aiguebelette qui luttent maintenant, enfin c'est un collectif qui s'est formé en 2012 pour diffuser les infos sur ce qui se passe autour de ce championnat. Donc il faut savoir que, pour le contexte, le lac d'Aiguebelette, c'est une réserve naturelle régionale. Donc ça veut dire qu'il y a un ensemble de lois qui légifèrent le lac, qui est un lac privé, mais un ensemble de lois sur ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et du coup, il y avait déjà eu des championnats d'aviron, à une date fameuse que j'ai oubliée, bien sûr. Et ils avaient déjà construit donc des constructions en dur, ce qui normalement est interdit sur le lac, mais là il y avait une dérogation pour construire ça. Et là, en 2015, pour les nouveaux championnats du monde, ils se sont dit « Ah mais c'est génial, on va pouvoir encore couler du béton, ça va être super !» Et alors, dans toute la magie des grands projets inutiles, on commence par quoi ? On commence par la superbe étude d'impact. Et donc là, ce que dénoncent les collectifs d'habitants, c'est déjà que l'étude d'impact a été minimisée, donc les impacts sur la faune et la flore du lac. Et ça, ça a été reconnu par le tribunal administratif de Grenoble en juin 2014. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Bah, c'est qu'ils ont coulé en gros des bassins en béton dans le lac pour faire passer les avirons. Qu'ils ont construit des structures, donc des tours de chronométrage, j'appelle ça, il me semble, pour chronométrer les gens qui rament. Et ils ont construit tout ça en dur, alors qu'en fait, il y a des structures existantes des autres années qui sont complètement désaffectées. Et que du coup ils ont détruit une partie de la réserve naturelle. Et en gros, ce qui se passe au-delà de la réserve naturelle, c'est que en fait c'est la même logique sur les autres projets inutiles. C'est qu'on va faire des consultations auprès des habitants, mais en fait tout ce que proposent les habitants, ils s'en foutent. Parce que là, par exemple, il y avait des habitants de ce collectif. Je crois que ça représente quand même 1700 personnes qui sont réunies autour du lac dans ce collectif, qui proposaient de faire des choses en déconstructible. Donc là, ils ont complètement squeezé ce projet. Et en fait, tout ce que proposent les habitants du lac n'est pas écouté. Les habitants des alentours ou les gens qui viennent pour profiter du lac en lui-même sans venir pour le spectacle médiatique. Et du coup, quoi d'autre ? Ah oui, en fait, du coup, tout se passe par à la limite de la légalité. C'est que, par exemple, ils ont construit les structures avant d'avoir les dérogations. Et après, ils obtiennent les dérogations. Ou alors, un autre truc, c'est qu'ils obtiennent le droit de faire naviguer tant de bateaux à moteur sur le lac, alors que c'est interdit notamment, normalement. Et hop, en fait, ils ont, je sais plus, c'est un truc genre, ils ont obtenu 12 bateaux à moteur, et en fait, ils en font naviguer 30 pour pouvoir bien filmer les gens qui rament. Et tout ça. Et bien sûr, une fois de plus, la grande logique des projets inutiles, hein, c'est de créer de l'emploi, et surtout de faire croire aux gens qu'on va créer de l'emploi et de l'activité économique, hein, pour excuser un peu les désastres et les nuisances qu'ils vont subir. Et là, ça passe pas du tout, parce que l'idée des décideurs politiques, c'est de faire croire aux habitants d'Aiguebelette qu'il allait avoir des retombées économiques grâce aux spectateurs de l'aviron. Et bah ouais, voilà, ça a loupé. Donc en fait, ils annonçaient 6 000 spectateurs par jour, et il n'y a pas du tout ce chiffre. Alors pour ceux qui veulent plus s'y intéresser, le site c'est Collaig, donc collaiges2015.blogstop.com, mais en gros, en tapant sur le monstre Google SOS Lac Aiguebelette, on tombe sur le collectif. Et voilà, encore un bon projet inutile qui est lancé autour de... et qui... Enfin, pour relancer une sorte de pseudo-économie et des investissements, sans penser aux gens qu'occupent vraiment l'endroit. Et oui, dernier truc qui est un peu intéressant sur ce que pensent les habitants. En fait, eux, ils pensent que à terme, en fait, le lac d'Aiguebelette, ils veulent en faire une grande base de loisirs et de compétition nautique, et que c'est pour ça qu'ils sont dans cette logique de construire du dur. Et donc, qu'à terme, ce sera plus une réserve naturelle, mais une réserve de sportifs pas naturels et plein d'OPO. Voilà pour Aiguebelette.
Et donc, du grand projet inutile, en veux-tu, en voilà. On continue bien sûr avec l'EPR de Flamanville. Alors, pour se rappeler, l'EPR, c'était justement le nouveau réacteur nucléaire qui allait être construit super rapidement, super vite, pour rien du tout, et ça allait faire de l'énergie super propre et super pas cher. Et ben, résultat, cet EPR, il devait être fini en 2012, et alors pas de bol, il devrait être fini normalement fin 2018. Et à la base, il devait coûter 3 milliards d'euros, et il va en coûter 10 milliards. Et donc, bien sûr, ces dates-là, c'est sous réserve qu'il n'y ait aucun nouveau pépin technique, qu'il n'y ait plus aucun problème, et que surtout, l'agence de sûreté nucléaire, l'ASN, ne trouve rien à redire sur le nouveau réacteur nucléaire. Mais alors, du coup, on peut se demander comment ça se fait que c'est passé autant de temps, qu'il y ait autant de retard, parce que ça fait quand même la quatrième fois que EDF repousse le démarrage. Et ben en fait, c'est principalement à cause justement de pépins techniques et de changements justement que l'ASN a, à demander des suspensions, à demander des retards, à demander de refaire des choses, parce que bien sûr le PR n'était pas complètement sécurisé. Donc il y a effectivement un petit peu les matériaux, les salaires qui ont pu changer depuis 2012, mais c'est surtout en fait à cause de l'allongement de la durée du temps de production, de construction. C'est-à-dire qu'au début ils avaient annoncé 3,3 milliards d'euros, mais ils savaient très bien en fait, enfin, c'était complètement impossible de réussir à construire ce réacteur en aussi peu de temps. Mais pour les ingénieurs d'EDF, ça allait être possible, et puis surtout ça permettait de justifier le fait de construire un nouveau réacteur nucléaire. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, c'est que le Areva, qui produit les pièces dans lesquelles avec lesquelles sont faits le réacteur, a changé sa méthode de forgeage, et du coup les pièces sont plus aux normes, sont plus sécurisées. Mais du coup, bad bol, on s'en est rendu compte une fois qu'on avait déjà fait le fond et le couvercle de l'EPR. Du coup, autant le couvercle, on peut l'enlever, le changer, mais le fond, il était quand même déjà bien accroché. Donc ça veut dire soit on fait tout péter le fond, mais du coup, ben, il faut rajouter 10 ans pour faire fabriquer le PR, soit il faut refaire les grosses soudures une à une, et il faut reprendre toutes les anomalies une par une. Mais jusque-là, on peut être rassuré, parce que le PDG d'EDF, qui s'appelle Xavier Ursat, est parfaitement confiant dans la capacité des ingénieurs d'EDF de réussir à construire ce réacteur en toute sécurité. Alors moi aussi, j'aimerais bien être parfaitement confiant dans le fait qu'ils arrivent à reconstruire leurs 24 soudures sur lesquelles ils sont plantés. Mais quand même, on se demande un petit peu si à un moment, bah, ça va se terminer, alors même que on sait même pas combien de temps va durer notre retraite. Et vu que notre retraite coûte de moins en moins cher, on a peut-être la chance de réussir à voir la fin de l'EPR en étant en activité salariée.
Mais quelle transition incroyable, puisque je voulais relayer un article du Canard Enchaîné qui s'appelle « Les chômeurs sauvent les retraites », n'est-ce pas ? Alors que d'habitude, je lis même pas le Canard Enchaîné, pour vous dire. Mais bon, alors du coup, dans cet article, ils disent qu'il y a une bonne nouvelle pour les finances publiques, c'est que le poids des retraites dans le PIB va baisser de près de 20%, dont en 2060. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la conclusion d'une étude qui vient de publier le groupe de travail européen sur le vieillissement, qui a été reprise par l'INSEE. Donc la baisse sera sensible, surtout en France, alors que dans les autres pays, il va y avoir une augmentation du coût des retraites en Allemagne et en Belgique. Ça, c'est parce que la démographie française est une des plus fortes d'Europe, et ce qui met la France dans une position favorable pour faire face au vieillissement de la population. Mais du coup, c'est pas tout. Enfin, ça, c'était la bonne nouvelle d'un côté. Mais c'est surtout aussi dû au fait que le chômage augmente énormément. Donc, en France, il y a un chômage moyen de 7,5% de la population active, c'est-à-dire moitié plus que celui des voisins. Et du coup, voilà, du fait de ce chômage important, les nouvelles générations auront des carrières plus fragmentées et tout ça. Donc, il y aura moins de droits à la retraite, ce qui fait que les retraites coûtent moins cher. Du coup, c'est super, on peut réduire les retraites à zéro, et comme ça, il n'y aura plus aucun problème pour les financer.
Waouh, c'est vraiment génial toutes ces nouvelles. Bah, du coup, on va vous inciter à ne pas aller travailler, avec une petite musique, bien sûr.
Travaillez plus, gagnez plus, j'aurai moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent.
J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas ouais, travailler du tout. Moi, ce que j'aime, c'est glander. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs je me fume un pétard. J'aime pas travailler patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça boule sudé.
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas ouais, travailler du tout. Même si tu me trouves un emploi, ça sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à m'adorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si le droit redouble l'effort, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas vrai travailler du tout. Et si un jour un beau matin, le droit m'en allait au turbin, je prendrais mes jambes à mon cou et je partirais pour le Pérou. Ce sera un pays sans banque, ce sera un pays sans banque. Et tant qu'ils sourront à moi joint, je n'aurai plus qu'à lever la main. Je ne travaillerai jamais debout, pensez pas me faire bosser assis. Encore moins me faire taper à genoux, je ne travaillerai plus du tout. Finalement je ne travaille pas, papa, je ne cherche même pas d'emploi. Et ne reste là à vivoter au soleil sans me préoccuper, au soleil sans préoccuper, au soleil sans préoccuper.
Et au doux son des trompettes de Zoufris Maracas, nous transitons vers le train de la SNCF.
Tout. Oh merde, j'arrive pas encore trop bien le bruitage. Bref, c'était pour vous dire du coup qu'il va y avoir une recrudescence des contrôles et voilà, de vigilance. Donc ce qu'ils appellent de la vigilance, ça peut être aussi de l'appel à la délation. Donc c'est Guillaume Pépi, le général en chef de la SNCF, qui a inventé une nouvelle manière de faire de la délation. C'est dès qu'on voit quelque chose d'inquiétant ou de pas normal, on peut le signaler en appelant le 3117 à partir du 1er septembre. Donc c'est déjà le cas. Donc le problème, c'est qu'il risque d'y avoir pas mal de canulars aussi. Voilà, sinon... Oui, c'est un vrai problème, parce qu'après on ne saurait plus ce qui est vraiment de notre sécurité. Ouais. Il risque de recevoir beaucoup d'appels.
Pensez aussi au travail difficile des gens qui bossent dans les plateformes d'appels au lieu de vous moquer tous. Voilà.
Oui, voilà. Donc voilà, ils vont renforcer également la police ferroviaire. Ben, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus finalement. Et donc, sans transition aucune, je passe au Guatemala, comme ça. Qu'est-ce qui se passe au Guatemala? Ben, le président a démissionné, mais pourquoi donc, me direz-vous? Donc, ça fait plusieurs temps que l'étau se resserrait sur le président Otto Pérez Molina. Donc, l'ancien général à la retraite est accusé de diriger non seulement le pays, d'avoir dirigé le pays, mais aussi un vaste système de corruption au sein des douanes. Donc le système de fraude, l'Alinéa, portait sur le détournement de taxes douanières avec la complicité de hauts responsables du gouvernement et dans l'administration fiscale. La révélation de cette affaire au public en avril dernier a mis feu aux poudres au sein de la population. Et du coup, il y a eu des manifestations un peu de partout pendant plusieurs mois pour réclamer la justice et la démission du président. Du coup, il y a eu de plus en plus de voix qui se sont élevées pour sa démission. La Cour suprême guatémaltèque a ouvert la voie le mardi 25 août à la levée de l'immunité d'Otto Pérez. Voilà, après, le Parlement a décidé de la levée de l'immunité du chef de l'État. Et le parquet et les juges d'instruction ont confirmé posséder des preuves implacables contre le président ainsi que contre son ancienne vice-présidente Roxana Baldetti. C'était le numéro 2 du réseau de corruption. Voilà, donc on a découvert des écoutes téléphoniques, des documents internes et des copies de chèques, donc tous les paiements des pots de vin résumé. Voilà, du coup, ça a fait une véritable onde de choc au Guatemala. La semaine dernière, il y a 6 ministres et plusieurs hauts responsables de son gouvernement qui ont démissionné, déçu de voir le président qui s'accrochait au pouvoir malgré les accusations graves qui étaient contre lui. Il y a eu vraiment des manifestations un peu de partout dans le pays, des organisations paysannes et indigènes qui ont bloqué des routes pour exiger son départ. Il y a eu des manifestations de qui partaient aussi des universités. Et du coup, voilà, ça y est, il a été poussé dehors. Donc, une journée après avoir été privé de son immunité par les députés, il a présenté sa démission. Un geste auquel il se refusait depuis donc 10 jours, quand la justice l'a accusé d'être à la tête de la LINEA, le réseau de détournement des taxes douanières. Et mercredi soir, la procureure générale avait lancé un mandat d'arrêt contre le président. Alors lui, ce mandat d'arrêt devait être effectif jeudi, puisque Pérez Molina, à la retraite âgée de 64 ans, s'est présenté à sa convocation devant la justice jeudi à 9h du matin. Donc c'était 17h en France. Voilà, donc selon un porte-parole du parquet cité par l'AFP, le placement en détention provisoire de l'ancien chef de l'État devait être demandé. Le vice-président assurera l'intérim jusqu'à dimanche, où il va y avoir de nouvelles élections présidentielles à laquelle Otto Pérez Molina n'est pas candidat. Bon, enfin, ça aurait été un peu gonflé d'être candidat à nouveau. Et du coup, c'est bien. Ça veut dire que de temps en temps, il peut se passer des trucs quand vraiment il y a des affaires scandaleuses. Pas toujours. Mais du coup, toujours au Guatemala, là, depuis fin août, il y a une autre affaire concernant l'ancien président du pays. C'est l'affaire Ríos Montt. Bon, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, je vous avouerai, mais vous voyez l'idée. Donc, en fait, voilà. Donc, l'ancien président Ríos Montt, lui, il était accusé aussi de plein de crimes, d'homicides de masse et de disparitions forcées. Et du coup, il y a une décision du tribunal du Guatemala de juger l'ancien président sur les accusations de génocide et de crimes contre l'humanité avec un avocat et à huis clos. Donc ça a ouvert une nouvelle voie pour la justice. Ça a pu mettre aussi en évidence les lacunes du système judiciaire, puisqu'il y a beaucoup de victimes qui attendent depuis très longtemps. Voilà, c'est ce que dit donc le site Amnesty International. Du coup, en fait, selon la presse, c'est les conditions du procès qui ont été décidées là tout de suite en raison de la santé fragile de l'ancien président, parce qu'il a maintenant 89 ans. Donc le procès va commencer en janvier 2016. Et du coup, voilà, donc ça fait que la justice a quand même a été retardée pendant très très longtemps. Mais bon, au moins, il va quand même y avoir un procès maintenant. Et voilà, donc si les autorités du Guatemala avaient traité les crimes choquants commis sous le régime, sous le régime de Ríos Montt en temps et en heure, au lieu de repousser les procédures, le pays se retrouverait pas dans la situation où il est maintenant. Et du coup, les retards ont créé beaucoup de souffrance. Et là, en 2013, Ríos Montt a été condamné à 80 années d'emprisonnement sur des accusations de crimes contre l'humanité et de génocide, des actes de torture à l'encontre de 1700 indigènes mayas. Et il a été accusé de déplacement forcé de dizaines de milliers d'autres, alors qu'il était président et commandant en chef de l'armée du Guatemala. Donc ça, c'était en 1983. Et du coup, cette décision, elle avait été annulée pour des questions de procédure. Du coup, il y avait un vice de procédure. Du coup, il n'avait pas finalement fait sa peine pour ces crimes-là, quoi. Après, il y avait une commission vérité qui avait été soutenue par l'ONU, qui a estimé que 200 000 personnes avaient été tuées ou disparues pendant les 36 années de guerre civile au Guatemala, donc de 1960 à 96. Et 80% des victimes étaient des indigènes mayas. Voilà, donc le procès va avoir lieu en tout cas, et on espère au maximum que justice sera faite.
Ah bah oui, bah c'est à moi bien sûr, et de quoi je vais vous parler dans la rubrique internationale. On change de continent pour retourner en Europe et parler de Londres, bien sûr Londres, vous le savez tous, où qu'est-ce qui se passe, il y a des gros problèmes de logements sociaux. Alors en fait, c'était juste pour vous inviter à lire un article qui est plutôt intéressant, qui est paru sur Global Vice le 1er septembre, et qui s'appelle « Le logement social de Londres ». Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'ils expliquent ? En fait, là où c'est intéressant, bah, c'est déjà de se rendre compte de ce qui se passe là-bas, et de se rendre compte, comme c'est proche un peu de ce qui peut se passer de chez nous, mais en pire. Parce qu'avec le logement social, qu'est-ce qui s'était passé ? Donc, il y avait Madame Thatcher, souvenez-vous, la Dame de Fer, le There is no alternative, etc. En fait, elle faisait les politiques libérales et elle les annonçait et elle les a passées un peu en bloc. Donc en fait, ce qui chez nous passe tout doucement a été passé en bloc là-bas sous Thatcher. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est qu'ils ont revendu petit à petit les logements sociaux, mais bien sûr, l'argent de la vente des logements sociaux n'a pas servi à reconstruire des logements sociaux, puisqu'ils se disaient « Ah mais non, le marché, la loi du marché, la main invisible, hein, la fameuse main invisible du néolibéralisme, et bah du coup le marché va proposer des nouveaux logements, puisqu'il y a des gens qui sont dans la demande de logements, donc on va leur proposer des logements pas chers. » Du coup, et bah ça a pas marché, parce que du coup proposer des logements pas chers, c'est ne pas faire assez d'argent, alors que vaut mieux garder un logement vide et puis spéculer sur l'immobilier. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, le gouvernement, au lieu de construire des logements publics, parce que ça c'est mal, hein, c'est financer le secteur public et c'est complètement anti-libéralisme, du coup il s'est dit bah on va aider le pauvre secteur privé et on va le subventionner. Alors super, du coup les propriétaires ils sont subventionnés pour louer leurs appartements moins chers. Et puis d'un autre côté, le problème c'est les pauvres, parce que vous savez, les pauvres ils profitent. Alors du coup ils se sont dit, bah s'il n'y a pas assez de place dans les logements, c'est pourquoi ? C'est parce que des fois, bah les pauvres ils sont là et ils ont une pièce en plus que l'habitant. Alors là c'est abusé, des fois ils ont trop grand et ils usent, ils gaspillent. Alors du coup ils ont dit, bah on met 25% d'aide en moins pour un locataire si celui-ci il vit dans un logement dont au moins deux pièces sont inoccupées. Alors ça c'est super, du coup l'auteur de l'article parlait de cas dans une réunion publique, donc je vais vous lire ce qu'elle disait. Lors d'une réunion publique à laquelle j'ai assisté à l'hôtel de ville de Brixton, une femme a ainsi expliqué comment ses aides avaient été réduites après qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer en phase terminale, parce que sa fille avait quitté la maison pour aller à l'université et qu'elle avait donc une chambre libre. Donc voilà, hein, les pauvres là qui ont des cancers et puis qui ont leur fille qui part étudier ailleurs, ça fait une chambre libre, ils pourraient prendre quelqu'un, ils profitent, ils gaspillent. Du coup, heureusement, la mairie, elle a été gentille, ils lui ont proposé un logement à des dizaines de kilomètres d'où elle habitait, avec une pièce en moins. Donc voilà ce qui se passe. Du coup, tout ça, l'auteur de l'article explique que tout ça, c'est un nettoyage des centres-villes, enfin un nettoyage social des centres-villes, et que du coup, bah petit à petit, les pauvres, ils sont exclus. Et que du coup, en plus de ça, bah, on vire les pauvres, du coup ça permet de faire de l'investissement. Et ce qui est assez chouette là-bas, c'est qu'en fait l'investissement immobilier, il y a des études qui ont prouvé que c'était du blanchiment d'argent. Donc notamment des petites dictatures, tout ça, et puis les gens reviennent avec l'argent de là-bas, et puis ils achètent des apparts, voilà. Donc c'est super. Et puis voilà, alors du coup c'est triste parce que les politiciens locaux ils disent ouais mais les gens ils sont en colère contre nous alors que nous on peut rien faire parce qu'on n'a pas de levier sur les loyers. Mais heureusement. Heureusement, et ça c'est exactement comme chez nous et c'est un truc.